Caribbean.
Le magazine qui explore,
qui voyage, qui découvre.
Partons sillonner les chemins de Roscanvel. C'est en partie grâce à l'Association pour la valorisation du patrimoine de Roscanvel que cela est possible. Depuis 2013, elle a mis à jour plusieurs éléments du patrimoine de la commune. Actuellement, ses bénévoles s'occupent de l'entretien du fort de la Fraternité. C'est là que nous avons retrouvé Daniel Boléa, Yvonne et Hervé Le Gall, Yves Chalopin et Marie-Paul Sourdin.
Alors là, ce que vous voyez, c'est le calcaire qui était là, qui s'extrayait. Et on voit que c'est des strates qui sont dans ce sens-là et que ce n'est pas la mer qui a creusé, c'est les hommes qui ont creusé pour faire dans ce four à chaud la chaux.
Et en fait, ça servait à quoi d'avoir un four à chaud ici sur le fort de la Fraternité ?
Eh bien, faire des constructions militaires en priorité. Et quelques constructions pour les habitations, mais les habitations, c'est surtout de la pierre. Et en fait, on faisait aussi des briques. Ça servait aussi à faire des briques.
Donc là, on est dans un lieu où il y a le fort de la Fraternité d'un côté, et de l'autre côté, c'est quoi ce qu'on retrouve ?
Alors, de l'autre côté, c'était un promontoire qui servait à éclairer. Ça a été utilisé avant la venue des Allemands par l'armée française. Et les Allemands se sont servis de ce lieu-là pour établir un blockhaus qu'on voit là-bas au bout.
Le projecteur est dans le blockhaus et au-dessus, en fait, c'était le poste de commandement. Et en fait, ça, c'est un projecteur qui pivote, qui peut éclairer différents endroits. Et le bâtiment rectangulaire que l'on voit était la centrale électrique, et ce qu'on appelle l'îlot du diable.
Alors là, c'est le fort de la Fraternité.
Notre dernier terrain de jeu.
Voilà. Qui a été construit lors de la Révolution. C'est pour ça que ça s'appelle la Fraternité ici.
On a nettoyé le long de ce mur parce que la végétation, les pruneliers arrivaient en fait à 2 mètres d'ici. Donc on a dégagé ça. Et puis on a surtout travaillé sur le côté nord.
Les sites étaient complètement recouverts de végétation en fait.
Oui, il y avait des pruneliers, ce genre d'arbres-là, un peu partout. Et c'est vraiment invasif comme plante. Donc il y avait une nécessité aussi d'écarter le GR de la falaise, parce que c'était une zone qui était un peu friable. Et bon, on a profité de ce terrain de fête pour commencer les travaux. Quoi.
Et vous avez commencé quand ?
C'était il y a un an à peu près. Oui, lors de la journée citoyenne,
exact.
Il y a un an.
Et vous êtes combien de bénévoles à avoir travaillé sur le site, là ?
Un certain nombre.
Entre 8 et 24 ?
Oui, à peu près, oui.
Suivant les moments ?
C'est très variable. D'accord. Très variable.
Et en fait, du coup, l'association existe depuis quand ?
2013. En fait, elle a été créée par Marie-Paul Kérinec, une habitante de Roscanvel, pour sauver les vitraux de l'église. L'église de Roscanvel avait brûlé en 1956, c'est ça ?
Oui, c'est ça.
Les vitraux avaient été abîmés, avaient été enlevés et remplacés. Et comme il s'agissait de vitraux d'un maître verrier très connu, Labouret, qui est mort à Crozon d'ailleurs, il y en avait 2 ou 3, je crois, qui étaient en vrac. Et ils ont décidé de les remonter et ils les ont présentés dans l'église. Quand ça a été fait, on s'est dit, on ne va pas dissoudre l'association, qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Et c'est là que l'on est parti sur l'eau, je crois.
Sur l'eau. L'eau,
après les lavoirs, on est passé au moulin, et après les moulins, on s'est retrouvé sur le fort de la Fraternité.
Voilà le parcours.
Voilà. Vous avez un peu parcouru tout Roscanvel, quoi.
On l'a bien sillonné quand même.
Le village oublié, toi. Le village oublié était comme ici, avec des pruneliers, des ronces. Et en fait, un habitant du secteur nous a contactés pour avoir l'idée de faire une visite de cet endroit. Donc on a enlevé beaucoup de choses, des ordures, des années 70 et autres. des voitures, machines à laver, enfin plein de choses quoi. Et donc, on a débroussaillé pour pouvoir faire le tour de ce village et faire un circuit qu'on a fait l'année dernière avec un historien et 1846 et Marcel Burel.
C'est quoi l'histoire de ce village oublié ?
Donc ce village oublié a été construit par les Allemands. Donc ils ont d'abord exproprié deux villages, le village d'Ulèze et le village de Pénarros, parce que les habitations servaient en fait pour l'aviation anglaise de point de repère pour bombarder Brest. Donc ils les ont expropriés, et à partir de là, ils se sont rappelés que la pointe des Espagnols avait été prise par la terre par les Anglais, et du coup ils ont construit un système de 17 blocos reliés par des tranchées à hauteur d'homme, avec des spécificités, donc grâce à notre historien, jeune historien Johan Baton, qui est passionné de ces fortifications et 1846, l'association Condonnaise, on a retrouvé grâce aux photos satellites qu'ils ont obtenues, des années 50, le trajet de ces différents blocos et les tranchées qui permettaient de les relier. Et donc, dans le cadre de la fête de la Bretagne l'an dernier, en liaison avec la Maison des Minéraux, on a débroussaillé donc ce parcours. Donc, on n'a pas débroussaillé les 17, on a fait un système de boucles qui faisait une visite de 2 heures. Donc, on a fait 2 visites l'an dernier au moment de la fête de la Bretagne. Ensuite, on nous en a redemandé au mois de juillet, on nous en a redemandé au mois d'août. Et la dernière qu'on a faite pour l'instant, c'est celle de la journée du patrimoine. Voilà. Et donc, on a de nouveau cette demande pour l'année prochaine, de refaire, pour l'été, là, de refaire encore ces visites. Mais ça va nous redemander du travail parce que, on a 30 ans, ça a repoussé.
Voilà, vous faites pas mal d'actions de débroussaillage, en fait, de remise au jour, en fait, des bâtiments. Ouais. Mais est-ce que vous les restaurez aussi s'ils sont abîmés ?
Vous allez voir. Ouais. Puisqu'on va pénétrer dans le fort de la Fraternité, vous verrez les restaurations, enfin le début des restaurations qui ont été effectuées.
Il faut préciser qu'on a quand même fait une formation sur la maçonnerie à l'ancienne et que grâce à Yvonne, enfin ceux qui encadrent l'association, qui ont bien géré ça. Et donc on peut se permettre maintenant, on a l'aval je pense des pouvoirs publics entre guillemets.
Des bâtiments de France, de la communauté de communes, du conservatoire du littoral. On a tous les accords pour travailler sur le fort.
Et donc faire des joints, consolider les toitures de tous les bâtiments qu'on peut voir.
Ouais, donc vous respectez en fait la construction comme elle était faite à l'époque.
Voilà, et on refait tout à l'ancienne. Il y a donc un maçon spécialiste qui est venu pendant tout un week-end nous expliquer comment il fallait faire, comment il fallait mélanger la chaux, le sable et l'argile pour consolider les bâtiments, cristalliser comme on dit les bâtiments.
Et le maçon en fait qui est venu, il s'agit d'un représentant de Thiès-Braise, l'association de Rennaise, hein, qui travaille sur la rénovation du bâti ancien. C'est eux qui nous ont formés et c'est grâce à eux que l'on peut travailler là-dessus correctement.
Au départ, le sentier passait sur le muret qui est là, en fait, qui était le mur de protection de l'enceinte. Et force d'y marcher, ça tassait trop et ça risquait d'abîmer. Donc, avec Didier Cadieu et les marcheurs du Finistère, on a travaillé à réouvrir le sentier qui allait d'une porte à l'autre en évitant de déblayer cette partie-là pour justement éviter que les gens n'y passent.
Donc, cette partie-là, c'est une partie du GR34, c'est ça ?
Ça, c'est le GR34 maintenant, depuis l'année dernière. Ça, c'est la partie dont nous sommes le plus fiers, dans la mesure où jusqu'à la porte, tout était sous la végétation comme ça. Toutes les pierres qui étaient là, qui sont le reste de la caserne, en fait, n'étaient pas visibles. Donc nous sommes très heureux de retrouver le site comme ça.
On ne voyait pas, on ne voyait rien.
Hein. Même pas le mur. Hein,
pas le mur, rien.
Et d'une année sur l'autre, il faut revenir quand même.
Même plus que ça. tous les 3 mois en période estivale. de mai à juillet, juillet, septembre, il faut revenir parce que ça pousse à une vitesse énorme. Et donc là, vous voyez la restauration qui a été effectuée au niveau du mur, des joints. Sur ce mur-là, toutes les personnes qui étaient au stage ont travaillé. Alors, ça fait peu, mais quand on sait le travail que ça représente, c'est beaucoup.
Et puis, il a fallu casser tout le mauvais ciment qu'il y avait aussi, nettoyer. Il y avait des herbes, des plantes, qu'il fallait enlever. Hein.
Et on travaille en tenant compte de la biodiversité aussi.
Oui, voilà.
Comment vous faites pour travailler en tenant compte de la biodiversité ?
On a une spécialiste de
la communauté de communes,
qui Guéguin, qui est passée, qui a inspecté les murs et qui a mis des petits repères dans chaque trou des murs qui pouvaient être habités par des insectes ou des oiseaux. Donc quand on refait les restaurations, on tient compte de ces petits repères mis sur le mur pour embêter le moins possible les animaux qui peuvent vivre avec nous.
Et donc là, il y a combien de mètres à peu près sur ce mur qui ont été restaurés ?
En longueur, si, une vingtaine de mètres.
On part de là-bas.
Oui, on marque 30, on va dire 30 maintenant. Ouais.
Ici, en fait, ce contrefort était à peu près dans le même état que l'autre. Et c'est pendant le stage, ils ont remonté, je crois que c'est de cette partie-là à cette partie-là, en essayant de respecter la forme, le sens des pierres, puisqu'il y a aussi une histoire de sens de pierre pour éviter que l'eau ne rentre à l'intérieur. Bon, on n'a pas eu le temps de terminer, mais il faut que l'on finisse aussi cette partie-là.
Et du coup, là, à l'intérieur du fort, on retrouve le magasin de poudre.
Magasin à poudre.
Sur lequel on travaille actuellement. Et il y a encore beaucoup de travail, parce qu'il y a encore des plantes qui ont poussé. On nettoie entre les pierres pour refaire le jointoiement.
Et donc ça servait à quoi, un magasin à poudre ?
Eh bien, à stocker de la poudre. À stocker de la poudre, tous les canons qui étaient par là, qui étaient axés sur la mer pour empêcher les Anglais de venir. Parce qu'en 1793, on n'était pas très copains avec les Anglais. Quoi. Donc, comme c'était la partie la plus sensible de la presqu'île pour débarquer, lors de la Révolution, ils ont fait tout un système ici de fortification avec des canons. Et ça servait de stockage. Et il y avait aussi une garnison, je pense, ici.
Donc en fait, ici, il n'y avait aucun prunelier. Donc les murs là, qu'ils ont commencé à nettoyer, c'était la garnison. Donc avec le magasin à poudre, avec sa double enceinte. Et ici, en fait, tous les pruneliers, c'était une plateforme où tous les canons étaient tournés vers l'extérieur.
Est-ce que vous avez une découverte qui vous a marqué, par exemple, sur le lieu ou autre part où vous avez travaillé sur Roscanvel ? Quelque chose qui vous a marqué ?
Une plaque tombale. Quand on était à côté du moulin, on débroussaillait le long du ruisseau Le Ragadal. Et un jour, en débroussaillant, on est tombé sur une plaque tombale et on a eu l'explication. En fait, on n'est pas tombé sur une tombe, mais on est tombé sur la plaque tombale qui avait été transportée à côté du moulin qui était la propriété de la personne qui était morte. Alors pourquoi ? Parce que le cimetière au début du siècle, je crois, était autour de l'église. Et pour des problèmes sanitaires, ils ont déplacé le cimetière beaucoup plus haut. Mais les gens n'étaient pas d'accord, certains n'étaient pas d'accord. On ne déplace pas leurs morts comme ça. Donc ils ont considéré que les morts, ils avaient leur place plutôt, ou la plaque avait sa place à l'endroit où avait vécu la personne. Voilà. Et donc ça a été une grosse surprise pour beaucoup. Et quand on a frotté par terre, qu'on est tombé sur une plaque. Donc, comme vous voyez, il y a du boulot de restauration hein, quand même, pour stabiliser les murs, surtout ce côté. Qui aurait tendance à s'écarter un peu et à tomber. Donc on a un chantier pour faire les joints, pour remplir, pour mettre des pierres et stabiliser tout ça.
Du tout, hein.
Le plus urgent étant quand même de stabiliser le toit, enfin de fermer toutes les fissures sur le toit pour protéger tout le reste.
Donc sur le toit, il y a eu des joints en ciment qui ont été faits. Donc, par l'association et Georges Lemoigne, il nous a dit qu'il fallait en fait qu'on les enlève parce que ça fait éclater les pierres.
Ouais.
Et du coup, il faut déjà ensuite, en plus de la végétation, il faut enlever tous les joints de ciment qui ont été faits pour pouvoir ensuite refaire les joints à la chaux comme dans l'ancien, de façon à ce que ça n'éclate pas la terre.
Le toit, c'est des dalles de pierre, c'est
des
ça?
Des grosses pierres sur le toit, des pierres rectangulaires. Mais le problème, c'est qu'il faut énormément enlever la terre, puisque la terre s'est accumulée. Les végétaux sont installés, on périt et on fait de l'humus et le cycle de reconstruction végétale s'est refait. Quoi. Donc on a même trouvé un arbre sur le toit. Un arbre a réussi à pousser. Et c'était quand même un endroit où il y avait quand même de quoi faire un beau feu d'artifice. Donc il fallait protéger l'endroit. Mais il faut savoir que l'intérieur, c'est une double cloison. En fait, il y a une voûte à l'intérieur et extérieurement, il y a une cloison encore. Ce qui veut dire que c'était pour se protéger des explosions potentielles, mais aussi pour se protéger de l'humidité, puisque la poudre et l'eau, ça fait pas bon ménage.
Là aussi, on a réouvert un chemin qui permettait de relier la route au four à chaux ici et qui passe devant les moulins à eau et qui longe les réservoirs à eau aussi. Tout était embroussaillé comme ça et on l'a réouvert. Non, mais c'était tout comme ça.
Ouais, en fait, sur le site, il y a beaucoup de choses qui ont été mises en place autour du fort, c'est ça?
Ah ben oui, puisque sur le Ragadal, il y aurait eu 5 moulins à eau. Pour l'instant, on en a 2 et les vestiges, vraiment un gros tas de cailloux d'un troisième que l'on a retrouvé. Et il y en a un qui a encore la meule qui est posée à l'intérieur, une belle meule en pierre.
Et vous avez autre chose, des lavoirs, vous m'avez dit ça?
Oui, on a recensé les points d'eau, les lavoirs et fontaines de la commune. On en a nettoyé certains. Certains sont parrainés par des membres de l'association pour l'entretien régulier, la mise en valeur. Certains et puis d'autres sont en cours de valorisation. Et ces points d'eau recensés, on en a fait une carte papier avec 2 parcours, avec une présentation des différents points d'eau, leur histoire racontée par notre historien Marcel Burel. Et il y a aussi une carte interactive qui a été faite pour suivre les 2 parcours.
Et alors ces cartes, on peut les retrouver où?
On les retrouve à la mairie, à la poste, au bar à vel, à l'église.
Donc alors pourquoi il y avait une retenue d'eau ici?
Pour justement faire comme dans les barrages, avoir toujours le même débit de l'eau sur le moulin, sur la roue du moulin.
Et en fait les moulins, ils fonctionnaient pourquoi?
Pour moudre le blé.
D'accord.
Je pense que c'était ça, il n'y avait pas d'autre utilisation du moulin, je pense.
Non, dans les archives, c'est moulin à blé.
Moulin à blé, oui. Ouais.
Vous travaillez beaucoup aussi avec les archives peut-être?
On essaie d'y aller un tout petit peu pour retrouver les traces de ce que l'on découvre, mais on manque un peu de temps.
Et donc vous avez là 2 pierres qui servaient de guide pour mettre une vanne. Donc on bloquait l'eau qui permettait de remplir toute la réserve d'eau qui était là pour alimenter régulièrement le moulin d'en dessous. Donc c'est des pierres qui sont travaillées pour établir une vanne, quoi.
Et le nom du cours d'eau?
Le Ragadal, R-A-G-A-D-A-L.
Et il prend sa source où?
Alors où exactement? Beaucoup plus
dans
haut.
Un mot du côté de Carmorvan.
Donc sur Roscanvel toujours?
Sur Roscanvel, oui. Ah, bah,
nous plaisent tellement qu'au mois d'août, on organise une promenade yoga et plantes.
Ce serait quand au mois d'août?
Je crois que c'est le 23 de mémoire, avec une herboriste et puis une professeure de yoga.
Donc vous allez faire tout un parcours au niveau des moulins?
Quelque part, dans ce site-là, oui, il y aura ce parcours avec reconnaissance des plantes.
Alors donc ici c'est un lavoir, c'est ça ? Ou une fontaine ?
Lavoir, abreuvoir en fait, puisqu'il y avait des vaches qui étaient dans le secteur et bon, c'était le point d'eau où elles venaient boire.
Ici c'était le point d'eau où ceux qui étaient en haut au fort venaient récupérer l'eau ici. Ça je l'ai lu quelque part, c'était le point d'eau de la fraternité.
Donc le moulin, c'est ça ?
Un des moulins, le moulin rond.
Alors pourquoi un moulin rond ?
Par sa forme, déjà. Et
intérieur.
Intérieur, oui. Et on suppose que c'est pas le premier, le plus ancien. Le premier était en aval, mais c'est le second sans doute celui-là, le plus ancien.
Et donc il fonctionnait avec une roue qui était tournée par le cours
intérieur.
D'eau. Donc là, il y a un trou d'eau en fait au fond du moulin.
Et une évacuation par là. On a retrouvé un cerclage de roues à l'intérieur, mais c'est tout. Il y a des marches aussi.
Vous pouvez un peu imaginer comment ça fonctionnait à l'époque.
On essaie. On se dit aussi que certains ont dû changer parce qu'il y avait des roues extérieures, puis il y a eu des roues à l'intérieur.
C'est un site où on trouve pas mal de constructions finalement.
Oui, énormément, oui. Énormément. Au fil des chemins, on trouve toujours un bâtiment en ruine ou une grosse pierre. Bien souvent, on mettait les grosses pierres dans les angles de champs aussi, pour délimiter les champs. En fait, on ne coupe pas toutes les herbes. Les fougères, par exemple, comme ça, on les laisse, les fleurs aussi. Alors voilà le deuxième moulin. C'est un peu plus impressionnant que l'autre. Non, il y a le même moulin que celui-là, du côté de Douarnenez, je ne me rappelle plus comment s'appelle ce village, et qui est en état, lui, et il fonctionne.
Donc ce serait possiblement le même constructeur.
Peut-être pas le même constructeur, mais les mêmes plans, puisqu'en fait le biais arrivait plus haut, devait arriver plus haut, et si on regarde les photos du moulin de Douarnenez, enfin des environs de Douarnenez, on voit qu'il y a... une colonne en bois qui vient tomber sur une roue qui serait, on va l'imaginer ici. Okay. En fait, il déviait le ruisseau dans le biais qui se trouve un peu plus haut.
Et il fait combien de mètres de haut à peu près ce moulin ?
Je dirais qu'un 10 mètres.
Il a d'ailleurs été racheté par la commune, celui-là. Okay.
Donc à l'intérieur, il y a la meule qui est encore là, cerclée.
Donc la meule a été laissée sur place.
Oui, bah c'était un assemblage de pierres en fin de compte, hein, visiblement.
Et pourquoi il y a des stries en fait sur les pierres ?
C'était pour écraser le grain et l'évacuer sur les bords,
oui,
c'est ça ?
Oui. Donc on peut imaginer que l'arbre, l'axe était ici, avec la roue qui était à l'extérieur, et la meule était dans ce secteur-là. Il y avait un système de transmission entre l'axe et puis la meule, et le meunier venait mettre le blé là.
Donc la meule tournait en permanence ?
Elle tournait en permanence. Ah, c'est peut-être débrayable, là je ne sais pas dire. Hein. Il était possible qu'on sorte l'axe parce que c'était deux axes coniques. C'était deux pignons coniques qui venaient, ou alors un système avec des, je sais pas à quelle époque c'était, parce qu'il pouvait y avoir un système avec des en bois avec des crans qui venaient s'enclencher, mais là c'est une affaire de spécialiste, moi je pourrais pas dire, mais je pense que ça devait être débrayable.
Celui-là je crois que c'est 1852, non, sa date de construction.
Oui, donc il y avait des emmanchements coniques sans doute, et sur celui-là il y a eu un gros boulot de débroussaillage aussi. Des murs et des. Parce que les arbres enfouissaient tout.
Et appuyaient aussi sur le dessus.
Oui.
Un samedi par mois, pour permettre à ceux qui travaillent de nous rejoindre, on a instauré une matinée débroussaillage aussi.
Et on peut vous retrouver où ? Ici, sur le fort de la fraternité ?
Ici, on a une page Facebook aussi, pour suivre un peu ce qui se passe et savoir où on se trouve.
Et vous êtes peut-être en recherche de bénévoles aussi, du coup.
Ah ben, toutes les bonnes volontés sont bienvenues. Hein. De toute façon, nous, on n'est pas de première jeunesse, puisqu'on est tous retraités. Et si des gens veulent prendre le flambeau pour plus tard, ben, ça serait bien aussi. Donc, qu'ils viennent avec nous. Et puis, on travaille dans la bonne humeur. Et c'est vivifiant. C'est deux heures par semaine en temps normal, donc le jeudi, de 10h à midi. Et sinon, donc un samedi par mois. En gros, c'est le deuxième samedi du mois. Et ça dure 2 heures aussi. Et, parfois, ça se termine par un verre de cidre entre nous et on devise. Partenariat avec le CNR, on fait aussi ce qu'on appelle le rando-kayak. On accompagne des kayakistes pour raconter un peu l'histoire de l'île des Morts et l'île Trébéron qui se trouve dans la rade, juste en face de Roscanvel. Donc ça, c'est en juillet et en août, il y a quelques balades. Donc si les gens veulent venir louer des kayaks au CNR et puis faire une balade accompagnée et commentée surtout, bah, ils seront les bienvenus.